Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre, nous le connaissons déjà, et peut-être sommes-nous habitués, et donc il passe assez facilement, nous l'entendons assez facilement, nous l'accueillons assez facilement. Il faudrait pourtant se remettre dans le contexte juif de l'époque de Jésus, et dans la loi mosaïque, la loi de la première alliance, pour mieux saisir la révolution que Jésus demandait. Quand il dit « manger ma chair, boire mon sang », même encore aujourd'hui, nous, quand on réalise, on se dit ben, « c'est quand même un peu fort hein, ». Et à l'époque des Juifs, c'était encore plus fort parce qu'il y avait une interdiction très très sévère pour en particulier ne pas consommer le sang, hein, le sang des animaux, le sang, parce que le sang était considéré comme le lieu de la vie. Et donc, manger ma chair, boire mon sang, c'était prendre la vie d'un autre. C'était s'accaparer de la vie. Il n'y a que Dieu qui était maître de la vie. Et donc, personne ne pouvait le faire en dehors de Dieu. Et donc, c'était une interdite très radicale qui a été maintenue dans les premiers temps de l'Église. Car si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand il y a tout le débat autour de que faire des païens qui deviennent chrétiens, au début c'était des juifs qui devenaient chrétiens, donc ils continuaient leur pratique juive et rajoutaient la vie chrétienne avec les exigences chrétiennes, mais les païens, que faire? Et il y avait donc un débat qu'on voit très fortement, des tensions très fortes dans l'Église primitive, parce que certains disaient il faut que les païens appliquent la loi juive, donc la circoncision, toutes les exigences de la loi juive. Et puis il y avait saint Paul avec d'autres qui disaient non, on ne va pas leur imposer cela. Et au bout de ce débat, eh bien, l'Église primitive a tranché, hein, c'était le premier concile, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, il tranche en disant eh bien non, ils ne vont pas appliquer la loi juive. Cependant, on leur demande donc pas la circoncision, pas les exigences de du culte juif et des règles rituelles juives. Par contre, on leur demande cependant de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, ça on comprend aisément pourquoi, hein, ça veut dire ne pas vénérer d'autres dieux, et puis de ne pas manger de viande étouffée ni de sang. Donc le principe de l'interdiction du sang, qui est un principe très ancien dans la Bible, était toujours maintenu à cause de ce principe de vie, parce que c'est dans le sang que symboliquement se tenait la vie, et donc on ne pouvait pas consommer la vie d'un autre. Et donc quand Jésus dit cela, il dit quelque chose de très fort. Il bouscule réellement les premiers chrétiens, ses disciples, et il les invite, il les invite à une conversion exigeante, difficile, et puis, en même temps, positivement, eh bien, en demandant qu'on mange sa chair et boive son sang, on accueille la vie de Jésus. C'est Jésus qui donne sa vie. C'est le concret. Jésus donne sa vie concrètement. Il se donne lui-même, mais dans tout ce qu'il y a de plus vivifiant en lui, hein, dans sa vie. Et donc, dans les premiers, quand Jésus fait ce discours-là, et qu'on retrouve au chapitre 6 de Saint Jean, eh bien, dans le même discours, c'est l'endroit où il est dit que les premiers disciples de Jésus, eh bien, disent « Ce discours est insupportable, nous ne pouvons pas l'écouter plus, il va trop loin ». Et beaucoup quittent Jésus. C'est à ce moment-là que beaucoup quittent Jésus. Et Jésus va dire à ses apôtres et à quelques disciples qui sont restés, il dit, vous aussi vous voulez partir? Donc les apôtres vont dire, non, nous voulons te suivre, continue à te suivre. Mais nous voyons déjà dans ce premier récit qui nous parle donc en fait de l'Eucharistie, hein, qui nous parle de la vie de Jésus donnée et de l'Eucharistie, premier, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué pour les premiers juifs à l'accueillir. C'est compliqué d'accueillir la radicalité, ce que Jésus nous demande de vivre par rapport à l'Eucharistie, d'accueillir, de croire vraiment que dans le pain et le vin consacrés, eh bien, nous avons le corps et le sang de Jésus, nous avons la vie de Dieu qui nous est donnée. C'est exigeant. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que dans les premiers millénaires, c'était relativement calme, même à la fin du premier millénaire, déjà, les premières querelles autour de l'Eucharistie commencent à exister, commencent à faire jour, et toujours dans le même sens. c'est inconcevable, c'est insupportable, ce discours est exagéré. Jésus va trop loin. Il propose, il se dit être corps, que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Trop, c'est trop. Symbole, pourquoi pas. Indication d'une réalité spirituelle, pourquoi pas. Mais un réalisme spirituel, non, c'est trop. Et il y aura toujours donc des querelles autour de cette réalité classique, et régulièrement, il y aura des gens qui ne vont pas suivre cet enseignement et qui vont quitter. Nos frères protestants, sans que ce soit uniquement sur ce point-là, mais ce point-là est un point, alors qu'ils accueillent la parole de Dieu comme étant la seule indication, le seul repère de leur vie. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le magistère et la tradition comme nous, hein, qui nous éclaire, hein, par le Saint-Esprit. Eh bien, nos frères protestants, eux, rejettent ce réalisme eucharistique. Trop, c'est trop. Non, un symbole suffira. Et donc, il y a des querelles régulièrement, et nous avons entendu tout à l'heure la longue séquence. Donc le chapitre 6 de Saint Jean, je vous invite à le relire, si vous voulez, pour prendre conscience de cette réalité forte que Jésus nous demande. Ensuite, nous avons entendu la séquence juste avant l'Évangile. La séquence, vous l'avez facilement, on la trouve facilement, hein, sur les livrets et tout ça. Je vous invite aussi à la relire. Elle a été rédigée par Saint Thomas d'Aquin, donc le plus grand théologien du Moyen-Âge, voire de l'histoire de l'Église, et qui, à la demande du pape, va faire une synthèse, dans cette séquence, une synthèse de la foi eucharistique. Ce à quoi nous croyons. Et quand vous le lisez, là aussi, on peut être pris de vertige. Et puis, c'est vrai que, comme je vous le disais, régulièrement, les chrétiens remettent en cause, les catholiques aussi, remettent en cause le réalisme eucharistique, la force de l'Eucharistie, la réalité de l'Eucharistie. Ils disent « Non, n'exagérons pas, pas autant, pas si fort, pas si loin. » Et là, saint Thomas redit bien les choses. Je vous invite là aussi, dans la prière évidemment, de lire cette séquence et de la prier. Et puis, tout le temps, j'ai évoqué la réforme protestante, et récemment, donc, le Saint-Pape Jean-Paul II a fait, durant son long pontificat, a fait énormément de textes, a produit énormément de textes pour nous guider. Et puis, vous savez, tous les textes n'ont pas la même importance. Le texte le plus élevé d'autorité dans l'Église, quand un pape écrit, le texte le plus élevé, c'est ce qu'on appelle l'encyclique. Et je ne sais pas si vous savez quelle est la dernière encyclique de Jean-Paul II, hein, en 2003, quelle est sa dernière encyclique? Eh bien, c'est l'encyclique sur l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Et dans cette encyclique, là aussi, je vous invite à la lire. Elle n'est pas très épaisse. Je vous invite à la lire parce que dans cette encyclique, le pape Jean-Paul II va redonner la synthèse de la foi chrétienne sur l'Eucharistie. Il va réaffirmer des choses. Quand l'encyclique est sortie en 2003, je faisais quelques études à la Cato de Paris, et elle a été très commentée, voire critiquée, parce qu'il redisait les choses telles que l'Église le croyait, parce que toujours la tendance, c'est de remettre en cause, de dire, de relativiser, de dire c'est pas si fort, c'est pas si vrai, c'est pas autant, on n'en a pas besoin. La tentation, c'est de se dire, si Jésus nous avait proposé du pain et du vin, symbole de son corps et son sang versé, ça aurait pu nous suffire. C'est la tentation, c'est-à-dire, en étant spiritualiste, en étant un peu spiritualisant, on dit, ça suffit, un petit symbole nous suffit, ça montre déjà les choses, c'est déjà bien. Mais non, c'est pas ce qu'il fait. Et donc le Saint-Père, le Saint Jean-Paul II, le rappelle avec force, cet enseignement traditionnel de l'Église. Le pape Jean-Paul II va rajouter un chapitre, là aussi que je vous conseille de lire, c'est la place de la Vierge Marie dans l'Eucharistie. Et nous invite à contempler Marie comme la Vierge Eucharistique et à vivre l'Eucharistie avec Marie. Et ceci aussi est un signe des temps, et je vous invite à lire cela et à méditer là-dessus. Cette foi eucharistique, comme j'essaie de vous le montrer, est difficile à accepter. Ça demande, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans la séquence qu'on a entendue tout à l'heure, hein, c'est très rare dans la liturgie de l'Église qu'on ait un texte qui dise « ça c'est un dogme de foi que le chrétien doit garder », il le dit dans la séquence. Et ça c'est un dogme. Ça veut dire que je dois l'accueillir, et même si ma raison n'arrive pas à suivre, je l'accueille dans la foi. Donc cette réalité-là est difficile, mais c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Si nous accueillons cette foi eucharistique, eh bien d'un seul coup, il y a des choses qui sont bouleversées. Évidemment, nous comprenons mieux pourquoi l'Église considère l'Eucharistie comme son trésor. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II au début de son encyclique. L'Eucharistie est le trésor de l'Église. D'où le fait que les chrétiens ont été généreux vis-à-vis de l'Eucharistie. Hein, d'où le fait que parfois, quand on célèbre la liturgie, parfois les chrétiens aiment à offrir des choses de grande valeur, des beaux calices, des beaux encensoirs, les ornements, etc. Parce qu'ils savent que là, c'est le trésor de l'Église. D'où cette démarche. D'où aussi cette démarche aussi où on a envie de l'Eucharistie. On désire l'Eucharistie. Hein, on l'adore parce que dans l'Eucharistie, c'est vraiment Dieu qui est là et qui se donne. Et ce qui est très fort, c'est quand on accueille la foi eucharistique, c'est qu'on réalise que Jésus s'est donné une fois pour toutes il y a 2000 ans sur la croix, mais que cette réalité du don est une réalité toujours actuelle par l'Eucharistie. Jésus, Dieu, continue à se donner réellement et non pas symboliquement, comme en disant autrefois, souvenez-vous, autrefois. Non, ça continue, c'est une réalité qui se poursuit dans l'histoire, qui ne fait qu'un avec la croix du Seigneur, mais Jésus continue à se donner. Quand nous consacrons le pain, le vin, quand nous recevons la communion, c'est Jésus qui se donne. Jésus se donne. Et comme le dira saint Augustin, eh bien, quand on est invité chez des gens importants, chez des amis, c'est un peu différent, mais quand on est invité chez des gens importants, ou des gens, voilà, on est invité à un repas, on regarde un peu ce qu'on va nous servir au repas, et on se dit, ben, quand je les inviterai, je vais essayer de faire au moins aussi bien. Et saint Augustin, il dit, eh bien, l'Eucharistie, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous êtes invité à un repas, nous n'en sommes pas dignes à la base. La dignité nous est donnée par le Saint-Esprit et par la grâce du sacrement du baptême en particulier. Nous n'en sommes pas dignes. Nous approchons de l'Eucharistie, nous regardons le repas qui nous est servi, et qu'est-ce qui nous est servi dans ce repas? Le Maître lui-même se donne à nous. Il se donne à manger. Il donne tout. Il donne tout. Il ne lui reste plus rien. Il donne sa vie, son sang, son corps. Il ne lui reste plus rien. Il donne tout. Et donc, en réponse à cela, eh bien, nous sommes invités à nous donner nous aussi. Nous donner à Dieu, hein, c'est le sens dans la prière, « Seigneur, j'ai confiance en toi, je me donne tout à toi, j'ai confiance en toi. » S'offrir à Dieu, mais s'offrir à Dieu n'est pas suffisant s'il n'y a pas la conséquence concrète de notre vie quotidienne, qui est s'offrir aux autres, se donner aux autres, se donner à nos proches, se donner à ceux que nous croisons, se donner à nos pauvres, à tous les pauvres, à tous ceux que nous croisons, surtout ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Voilà la démarche eucharistique. Voilà ce que le Seigneur nous invite à vivre, l'accueillir dans cette réalité choquante et bouleversante qu'est l'Eucharistie, pour ensuite vivre vraiment de cette Eucharistie, cette vie divine, pour se donner à Dieu, pour se donner aux autres. Et quand on se donne aux autres, évidemment, comme dit Thérèse de Lisieux, quand j'aime mes sœurs, parce qu'elle avait des sœurs au Carmel, quand j'aime mes sœurs, je sais que c'est Jésus qui aime à travers moi. Ça, c'est l'Eucharistie qui nous permet cela. C'est l'Eucharistie, c'est la vie de Jésus en nous qui nous permet d'aimer notre prochain plus que ce que nous pouvons faire humainement. Amen.